Oui, M. Drinville.
M. Lavoie, vous allez d'abord nous parler, laissez-moi deviner, de la COVID, peut-être?
Eh, peut-être, hein? Ça, ah. Pile, t'es tombé pile, ben.
Quelle surprise!
Mais je commence par une bonne nouvelle, par exemple. Je commence par une bonne nouvelle. 1 an et 5 000 morts plus tard, la pandémie de COVID-19 a pratiquement été stoppée dans les CHSLD du Québec.
Oui.
La campagne de vaccination y est pour beaucoup. Ouais, dans les derniers jours, on a enregistré seulement une poignée de nouveaux cas de la maladie dans des centres d'hébergement et de soins de longue durée. Un seul nouveau cas hier a été signalé dans tout le réseau. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, j'ai pas ces chiffres-là. Alors, on dit que le vaccin a eu un énorme impact chez les résidents des CHSLD. Il y a eu une baisse considérable du nombre d'infectés. Et puis, il y a M. Michel Nardella, qui est le président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec, qui dit « Le vaccin est venu mettre un clou dans le cercueil du virus. »
Oh, ça, c'est une citation.
Belle expression, ouais,
oui,
magnifique.
Oui,
voilà, voilà. Alors, on a quand même enregistré 3 morts dans les CHSLD du Québec et 80 cas de personnes âgées qui sont toujours infectées. Mais les chiffres vont continuer de baisser. Mais là, le problème, le dernier des défis, c'est de convaincre, et ça, j'ai de la difficulté à comprendre ça, les travailleurs de la santé, des CHSLD, de se faire vacciner. Au moins, il paraît que ça va mieux. Ce même monsieur Nardella, au départ, on avait beaucoup d'employés qui avaient peur de se faire vacciner, mais quand ils ont vu qu'il n'arrivait rien aux gens âgés, ils ont accepté de recevoir le vaccin. Ce qui m'amène à te dire, Bernard... Je comprends pas cette idée qui veut que t'es travailleur de la santé puis tu peux refuser le vaccin. Je la comprends pas. Je comprends pas pourquoi chez ces spécifiquement ces personnes-là, on force pas le vaccin ou alors tu trouves un job ailleurs. Non, parce que tu deviens le vecteur. Imagine, c'est que ça a pas de bon sens.
Toi, tu irais jusqu'à forcer.
Les travailleurs de la santé, oui.
Ah ouais, hein?
Sans aucun doute.
Parce qu'ils sont une méchante gang, Luc. S'il fallait qu'ils démissionnent ou qu'ils se fassent sacrer à la porte parce qu'ils refusent de se faire vacciner, on aurait un problème de pénurie de main-d'œuvre, je pense.
Ben ouais, ben je suis pas sûr qu'ils démissionneraient, moi. J'aimerais bien
peut-être,
voir ça s'ils démissionneraient.
Peut-être pas, mais tu sais que tu rentres dans une dynamique de charte des droits, là, hein?
Moi, blablabla, ben je veux dire...
T'as pas le droit de... C'est mon intégrité physique, etc., etc.
Blablabla.
Je suis pas en train de dire que je trouve ça normal que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé puis qui est payé par des fonds publics refuse de se faire vacciner, je trouve pas ça normal. Mais l'imposer de force, ou sinon t'es dehors.
Mais c'est un critère d'emploi, d'après moi.
S'il y a une campagne de vaccination, t'es obligé de prendre le vaccin. Ça fait partie des critères d'embauche.
Oui, absolument. Il y a des critères dans divers emplois. Il m'apparaît là que si t'es un travailleur de la santé, donc t'as été exposé plus que n'importe qui, t'as eu beau faire attention, on sait jamais, hein. Et puis là, comprends-tu, les résidents se font vacciner. Mais toi, tu continues. Ben là, je trouve ça carrément épais. OK? Bon, on continue sur d'autres choses.
Oui.
Au Nouveau-Brunswick, ils veulent vacciner les 16-24 ans avant les gens dans la soixantaine.
Parce que les jeunes sont les vecteurs du variant.
Ouais.
Du variant.
Tu vois, là, ils vaccinent présentement les 85 ans et plus, puis ils vont enchaîner avec celles qui ont entre les personnes entre 70 et 84 ans. Et c'est là que ça devient intéressant ou intriguant, disons.
Oui.
La vaccination des élèves et des étudiants âgés de 16 à 24 ans est prévue en juin, alors que celle pour les gens de 60 à 69 ans pourrait ne se faire qu'en juillet. Alors, c'est un peu particulier.
C'est un choix différent d'une autre. Hein?
C'est, ouais,
un choix
différent c'est une d'une stratégie autre. Intéressante parce que l'idée, c'est que les jeunes sont les vecteurs. Mm-hmm. Alors, on va réduire le nombre de vecteurs. Alors, je vais te dire, on dit que les 16 à 24 ans seraient associés à un volume plus important d'infections. Et ils craignent aussi les variants, comme tout le monde. Alors, on passe immédiatement aux jeunes. Voilà.
Ouais, toi, t'es pas en train de remettre en question, là, t'es toujours là, Luc?
Oui, bien sûr.
Hein, t'es pas en train de remettre en question l'ordre de vaccination décidé par le Québec?
Non, pas du
tout.
Je souligne.
Oui,
je
souligne. Pour la réflexion, bien sûr.
Ouais, voilà, c'est intéressant à savoir.
Oui.
Alors, hier, comprends-tu, le Texas qui a annoncé, bon, la fin, c'était mardi qu'il a annoncé, du masque obligatoire, la réouverture de 100% des commerces dès la semaine prochaine. Le Mississippi a fait le même choix. « Il est temps », a tweeté Tate Reeves. Mais là, je trouve ça intéressant ce que le président Biden avait à dire. Il a commencé par dire que C'est une grande erreur. Mais ce qu'il a dit, c'est la dernière chose dont nous avons besoin est d'un raisonnement préhistorique. C'est une mauvaise traduction, je pense, parce qu'au fond, ce qu'il disait, c'est Néandertal. Oui. Tu sais, ceux qu'on appelait les hommes des cavernes. La dernière chose dont nous avons besoin est d'un raisonnement d'hommes de cavernes.
Tiens, ça, c'est le président américain qui a dit
président
ça.
Président américain.
Qui a dit ça à propos du gouverneur du Texas, c'est ça?
Oui, absolument. Il a dit, puis évidemment, la grande patronne du Center for Disease Control, le Centre américain de prévention et de lutte contre les maladies, Rachel Walensky, a été dans le même sens que le
président. Dans le même registre, oui, c'est ça.
Et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné quoi que ce soit concernant le Brésil, mais ça se détériore, là, mais c'est incroyable. Ah. Évidemment, leur président stupide et populiste et je ne sais plus trop quoi et blablabla. Ça donne quoi? Ça donne que le Brésil a enregistré en 24 heures 1910 morts. Il vient de battre un record de 1641. Alors, c'est le pays latino-américain le plus endeuillé, le pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis. Alors, c'est assez incroyable. Il paraît qu'il y a un variant, en plus, qu'on appelle le variant P1, apparu en Amazonie, et qui est deux fois plus contagieux. Alors, la campagne de vaccination, ben là, écoute, c'est ça n'a pas de bon sens, là. Il y a pas de dose. Alors, tu sais, c'était supposé être leur gouvernement fédéral qui les achèterait, mais là, les régions ont décidé que, laissons faire, on va aller se trouver des vaccins nous-mêmes. C'est assez incroyable. Bon. Puis, Bolsonaro, leur sympathique président, il a averti
le
les
Trump,
gouverneurs.
Hein, le Trump latino-américain.
Ouais, le Trump latino-américain. Il a averti les gouverneurs qui prendraient des mesures de restriction qu'ils devraient payer sur leur propre budget les aides aux plus vulnérables.
C'est pas croyable.
C'est incroyable.
Hein? Cet homme-là, c'est vraiment un imbécile. Là.
Mais en plus, il l'a eu. Il l'a eu, la maladie, puis il l'a eu assez sévèrement. Mais il n'a pas voulu que ça paraisse, puis il se voit comme l'exemple vivant du fait qu'on n'a pas besoin de toutes ces mesures-là. Voyez, moi, je suis encore ici.
Mais ils crèvent comme des mouches là-bas.
Ah, c'est incroyable. Ah, c'est d'accord. Incroyable. Ah, puis ben là, en Europe, ça, c'est un peu plus inquiétant. Sûrement que ça dépend des variants. Le nombre de cas augmente à nouveau en Europe après 6 semaines de déclin. Les nouveaux cas de COVID en Europe ont augmenté de 9 % pour atteindre un peu plus d'un million la semaine dernière. Alors, mais à l'heure actuelle en Europe, la campagne de vaccination, c'est pitoyable. À l'heure actuelle, 2,6 % de la population a reçu les deux doses d'un des vaccins et 5,4 % a reçu au moins une dose. Quand on situe l'immunité collective à 75 % ou à peu près, on est loin du compte. On sort de COVID, Bernard, pour parler de Washington, où il n'y a plus rien qui m'étonne dans la vie. Alors là, il y a tout un appareil sécuritaire qui a été mis en place autour du Capitole parce qu'on a peur qu'il y ait un autre assaut meurtrier aujourd'hui mené par des extrémistes pro-Trump. C'est les membres de la nébuleuse QAnon qui accordent des coups de c'est spécial.
Mais là,
ils sont convaincus. Avant 1933, là, c'est le 4 mars que le président des États-Unis prêtait serment. Il y a eu un amendement à la Constitution qui a permis que ce soit maintenant avancé au 20 janvier. Mais les membres de QAnon, eux autres, pensent que c'est pas vrai, Biden n'est pas président. C'est le 4 mars aujourd'hui, puis là, c'est là qu'on va voir Trump qui va redevenir président. Alors, c'est assez
incroyable.
Écoute,
ils prennent de la drogue, eux autres. Hein?
Ils sont complètement sautés. Juste le fait que, regarde, cette mouvance qui est née en 2017 aux États-Unis chez les partisans de Donald Trump et qui serait, selon cette même théorie, cette théorie du complot, en croisade contre, et ça fait plusieurs fois que je le mentionne, mais j'en reviens pas, entre guillemets, une élite composée de pédophiles satanistes. Et quand tu penses, Bernard, qu'il y a eu des manifs anti-masques au Québec, où il y a des gens qui portaient des T-shirts QAnon puis des drapeaux QAnon, ce sont des épais, des gens extrêmement dérangés, mais qui se multiplient. Enfin, il y en a plusieurs, paraît-il, qui ont abandonné la mouvance QAnon après l'assermentation de Biden. Mais là, les autres, ils sont là, ils sont installés autour de Washington. Là. Il paraît que c'était dur de trouver une chambre d'hôtel, mais ce qu'ils ont mis comme sécurité autour, ils sont inatteignables. Mais néanmoins, qu'un grand pays aussi sophistiqué, qui a le plus grand nombre de prix Nobel de l'histoire, un pays où sont les plus grandes institutions d'enseignement au monde, un pays qui est avancé scientifiquement plus que n'importe quel autre, comment on se retrouve avec des gens qui pensent à des affaires aussi stupides? Mais c'est stupide, mais c'est pas possible.
C'est des tatas, mais tu sais
une élite composée de pédophiles satanistes, ils croient ça!
Oh oui.
Ils sont fous!
Oh oui, le mix des deux, d'ailleurs, pédophile et satanisme, m'a dit, c'est un méchant.
C'est un joyeux mélange.
Un méchant mélange. Mais là, tu sais qu'il y a des complotistes qui pensent que la journée d'aujourd'hui, là, c'est un piège du Deep State pour capturer des complotistes. Donc, c'est un complot du complot ou un complot par-dessus le complot. Comprends-tu, Luc?
Dans leur tête, ce qu'ils appellent le Deep State, là,
c'est
l'appareil d'État. Sorte de vision d'establishment. Là,
non, mais le Deep State, c'est l'élite. C'est ceux qui
c'est l'élite de Washington.
Ceux qui dirigent le Deep State, c'est les pédosatanistes.
Et voilà! Hein? Ça nous prenait des gens intelligents comme ça pour nous l'apprendre. N'oublions pas qu'on a un certain Alexis Cossette-Trudel au Québec, qui est un des grands épais de l'histoire, qui véhicule ces théories-là.
Ouais,
mais là, il a été banni de quasiment toutes les plateformes de médias sociaux.
Je peux pas dire que je le suis bien, celui-là, mais il me semble qu'on entend moins parler depuis l'accession à la présidence de Biden. Je sais pas, il y a...
Ben, c'est surtout qu'il s'est fait couper son accès à Facebook, son accès à Twitter. Il est rendu, paraît-il, qu'il loge ses imbécilités sur un site situé en Russie.
Ah.
Je sais pas trop quoi.
Bon.
Mais, en fait.
Bon.
Ça, c'est un ancien leader des jeunesses péquistes. Il a mal tourné. Bernard, fais attention, tu pourrais mal tourner.
Il y a longtemps de ça, Luc. Je suis pas sûr qu'il y a un lien entre les deux, là.
Ben, c'est un péquiste, puis il est tombé là-dedans. Fais attention, Bernard, je te surveille, là.
Oui.
Je te le répète, séparatisme, mais juste au provincial.
Il y a quelques conservateurs aussi qui ont mal viré. Fais attention à toi aussi. Bon, on se reparle un peu plus tard, Luc, quand on va jaser hockey, hein?
À tout
absolument,
à l'heure.
Absolument. Après la pause, on va parler avec Serge Bouchard. Donc, c'est assez rare, hein, vous avez remarqué peut-être. C'est assez rare que je vais faire des entrevues avec quelqu'un qui sort un livre. C'est assez rare parce que j'essaye de rester dans l'actualité le plus possible dans l'émission, dans les 3 heures qu'on fait. Là, on essaie de rester dans l'actualité. Mais Serge Bouchard, pour moi, c'est un être à part. Puis si vous ne le connaissez pas, restez à l'écoute. Ceux qui le connaissent vont rester à l'écoute, j'ai pas de doute. Si vous ne le connaissez pas, restez à l'écoute. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment exceptionnel.